Micro ouvert. Micro ouvert.
Vous écoutez Fréquence Mistral. Micro ouvert. Bienvenue dans Micro ouvert. Saviez-vous que le tissu associatif en France représente 20 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés? J'ai trouvé cette information sur le site du mouvement associatif. Cette structure rassemble plus de 700 000 associations et représente plus de la moitié des associations en France. Le mouvement associatif œuvre afin de permettre aux associations de faire mouvement pour favoriser le développement d'une politique de vie associative à la hauteur des enjeux et pour tendre vers une société plus juste, plus durable et plus humaine. J'ai invité aujourd'hui deux membres du mouvement associatif. Sandra Castereux-Brunet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée régionale et Isabelle Malul, chargée de mission, qui est à côté de nous mais qui ne va pas prendre la parole finalement. Nous allons parler des enjeux dans l'emploi dans le secteur associatif et nous ferons un focus particulier sur la journée régionale pour l'emploi associatif organisée par le mouvement associatif le 24 mai 2023 dernier. Fréquence Mistral y était pour enregistrer les conférences. Mais avant toute chose, merci d'être venue dans nos studios. Sandra Castereux-Brunet, comment en êtes-vous venue à travailler au mouvement associatif?
Eh bien bonjour, merci beaucoup pour cette présentation en préambule, pleine d'espoir. Et comment je suis venue à travailler au sein du mouvement associatif, par une volonté dans mon parcours professionnel de soutenir les associations à un moment où j'étais effectivement dans un consortium de coopératives dans le secteur de la formation professionnelle et où je dirigeais un projet fondé par Michel Faure, un ancien président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui avait pour ambition de rassembler et de former les responsables intermédiaires de l'économie sociale et solidaire. C'était une école qui s'appelait ECOMES et elle était portée sous format associatif. Dans mon militantisme au milieu des coopératives, et pour autant je défends aussi très fortement le milieu coopératif, on va dire les valeurs de l'ESS au sens large, m'ont amené en tout cas à rencontrer Yannick Gallien qui présidait l'UNAT et le mouvement associatif et qui m'a proposé cette opportunité de porter la voix pour les associations en prenant la direction en 2020, juste avant le Covid, du mouvement associatif régional.
Et donc justement, quels sont les objectifs et les missions du mouvement associatif ?
Le mouvement associatif est un en miroir du mouvement associatif national. Il existe un mouvement associatif au niveau national et il existe un mouvement associatif dans chaque région. Nous avons pour rôle de rassembler les coordinations et les fédérations associatives, de les représenter pour représenter les associations d'un territoire auprès de différentes instances publiques. Et nous avons donc un rôle très fort de représentation au sein de plusieurs instances de la vie associative pour défendre, promouvoir le développement, comme vous l'avez dit, d'une force associative utile et créative. Donc, c'est un premier objectif qui semble un peu flou comme ça aujourd'hui, mais néanmoins, voilà, pendant la, puisque j'ai évoqué la période Covid, pendant la période de Covid, nous avons pu voir l'intérêt de cette organisation, de ce rassemblement des fédérations pour faire corps, faire être ensemble et pouvoir eh bien, faire remonter aux interlocuteurs principaux les éventuels trous dans la raquette, les manquements, les oublis, les zones blanches dans les territoires et être ainsi le porte-voix, comme on dit, des associations et notamment de l'ensemble des associations fédérées et représentées par nos membres qui sont des fédérations.
Et est-ce qu'on pourrait dire que vous avez comme un travail syndical ?
C'est pas tout à fait la même chose, bien évidemment, puisque les syndicats représentent les salariés. Alors, voilà, le point de convergence, nous représentons les associations. Néanmoins, il y a aussi dans les associations et des salariés et des employeurs. Et c'est tout l'enjeu, évidemment, de représenter à la fois les employeurs, d'ailleurs salariés, et les employeurs bénévoles. Donc voilà, la complexité du modèle associatif s'y retrouve. Et il y a à l'identique, évidemment, un militantisme certain, puisque nous allons également promouvoir le fait associatif, défendre l'idée que une association porte les politiques publiques et va de ce fait participer sur les territoires à développer les politiques publiques, à les renforcer, à proposer aussi des solutions pour puisque c'est les premières à avoir la capacité d'innovation. Hein. Rappelons que l'association, c'est tout simplement des citoyens qui se rassemblent autour d'un projet pour porter un projet. Et donc, évidemment, quand on se rassemble pour porter un projet, et d'autant plus quand on le porte de manière bénévole, il y a une part de militantisme qui est assez fort. Et en ce qui concerne la défense des droits, pour reprendre votre métaphore du syndicalisme, je dirais qu'effectivement, l'idée aussi est de les renforcer, de pouvoir promouvoir, de veiller à effectivement interpeller s'il y a lieu d'interpeller les pouvoirs publics. Et donc les fédérations associatives, sectorielles et plus largement voilà, l'ensemble des fédérations et des coordinations associatives remplissent évidemment ce rôle-là aussi.
Et est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'histoire du mouvement associatif ? Quand est-ce qu'il a été créé et par qui ?
Oui, alors le mouvement associatif régional ici a été créé en 1982, avant même sa composition formelle statutaire, qui est plutôt 1984, par Frédéric Rosmini, qui est aujourd'hui notre président d'honneur. Je le rappelle, aujourd'hui, Yannick Gallien est toujours donc le président régional du mouvement associatif. Et Frédéric Rosmini avait rassemblé l'ensemble des fédérations de l'éducation populaire et pour eh bien, œuvrer ensemble sur le territoire à la promotion de l'éducation populaire dans un contexte compliqué de comment dire de montée du Front National notamment de problématiques liées aux discriminations à une attaque finalement des valeurs portées par les fédérations de l'éducation populaire. Donc ce rassemblement dans notre région a permis de regrouper en 1984 donc d'abord les fédérations de l'éducation populaire et donc nous nous appelions FSPVA pour Fonds de solidarité et de promotion de la vie associative et qui aujourd'hui correspondent dans les autres régions si vous voulez au regroupement des fédérations de l'éducation populaire sous une association qui s'appelle CRAJEP pour comité régional des associations de la jeunesse et de l'éducation populaire. Ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous sommes restés sous ce format FSPVA. Et puis, Parallèlement, en 2008, en région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a les fédérations hors éducation populaire, on va dire, qui se sont également réunies sous le nom de CPCA, donc Confédération permanente des coordinations associatives, telles que, par exemple, les fédérations du sport, du tourisme, du médico-sanitaire et social, etc. Et elles ont décidé en 2015 de ne faire plus qu'une et de se réunir sous le nom de FSPMA pour le MA, enfin le VA se transformant en MA pour mouvement associatif, qui était en préfiguration du mouvement associatif et de ses compositions au niveau national. Pendant quelques temps, on est resté la dernière région à avoir cette particularité de fédération de l'éducation populaire qui ont un poids important au sein du mouvement associatif régional, puisqu'il n'y a pas de CRAJEP, d'association CRAJEP à proprement parler, comme dans toutes les autres régions. C'est le mouvement associatif qui, en son sein, anime cette coordination des fédérations de l'éducation populaire, ce qui n'est pas anodin, puisque ça insuffle forcément, de par la quantité, mais la qualité également des travaux et de l'investissement des associations de l'éduc-pop dans notre mouvement, pour porter les enjeux de l'éducation populaire au sein du mouvement associatif de manière assez forte. Et comme le rappelle souvent Yannick Gallien, notre président, de toute façon, l'ensemble des fédérations, qu'elles soient à objet ou à finalité éducation populaire ou pas, portent les mêmes valeurs de citoyenneté, de vie ensemble, de projet de vie commun, etc., de renforcement du lien social à travers l'ensemble des fédérations. Néanmoins, en 2019, nous avons, fin d'année 2019, nous avons tout de même renforcé notre image et opéré un virage assez conséquent pour rejoindre le mouvement associatif national, ce qui s'est traduit par le changement de notre nom. Donc on s'est appelé définitivement le mouvement associatif aussi Provence-Alpes-Côte d'Azur, et en conservant cette particularité de quasiment 50% d'adhérents des fédés de l'éducation populaire et 50% hors éduc-pop.
Alors peut-être ça répond déjà à cette question, y a-t-il des spécificités du mouvement associatif en région sud et pourquoi cette division en région et pas au national ?
Oui, eh bien, effectivement, nous, je vous ai parlé tout à l'heure de notre rôle de fort de représentativité, et bien évidemment, les quatre piliers fondateurs qui guident l'action de notre mouvement associatif régional. Le premier, c'est d'accompagner les associations, donc elles se traduisent par des actions aussi concrètes d'accompagnement. Hein. Nous portons des dispositifs aujourd'hui comme MPE, mon projet d'entreprise ESS, avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, pardon, et d'autres acteurs en consortium. Hein. Nous pilotons également le programme Guide d'Asso, qui a la particularité d'être un dispositif aujourd'hui d'État et de nous inciter à co-porter ce projet avec les services de l'État pour restructurer, on réinvente rien, mais restructurer la vie associative en local, retisser du lien aussi entre les acteurs publics et les acteurs associatifs. Et d'autres dispositifs. Le deuxième, consiste à animer les dynamiques associatives. Quand on est une tête de réseau, notre rôle principal, évidemment, est celui qui consiste à animer autour des enjeux qui traversent l'ensemble des associations. Donc, nous allons pour cela toujours veiller à mettre en place des actions de coordination, des actions de rencontres entre fédérations au sein de nos instances ou à travers des journées dédiées sur des thématiques et des enjeux partagés. Ensuite, le troisième, je vous en ai parlé, hein, c'est de porter les enjeux de la vie associative et notamment, évidemment, à travers notre rôle de plaidoyer au sein des différentes représentations. Et enfin, la particularité, c'est que ici nous avons renforcé notre action, effectivement, peut-être avant les autres mouvements associatifs régionaux, mais néanmoins tout le monde s'en empare aujourd'hui, notre action autour de l'emploi associatif. Et donc nous avons bien conscience que 90% des associations fonctionnent et se développent avec la seule ressource bénévole, donc il ne faut pas l'oublier. Et nous travaillons très fortement aussi le sujet de la gouvernance, de la formation des bénévoles et des enjeux de la mobilisation des bénévoles, d'autant plus aujourd'hui. Voilà, c'est un sujet crucial pour toutes les associations, le renouvellement générationnel aussi pour les bénévoles. Mais pour autant, l'emploi associatif est tout aussi important, et donc nous nous en sommes saisis. Yannick Gallien a pu sensibiliser la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et aujourd'hui la DRAGES et la DRETS sur bien évidemment cet enjeu partagé et a pu promouvoir, partager un plan d'action régional dédié à l'emploi associatif pour nous saisir des différentes problématiques qu'on abordera, j'imagine, un peu plus tard, et qui a fait aussi l'objet de cette première rencontre dédiée à l'emploi associatif au niveau régional.
Merci d'avoir présenté vos différentes actions sur le territoire. Et avant de passer à une pause musicale, j'ai une dernière question, parce qu'on parle de l'ESS. Et vous inscrivez dans le cadre de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et peut-être ça vaut le coup que vous nous expliquiez un peu mieux ce que c'est que l'économie sociale et solidaire.
Alors, il y a une entrée, on va dire, pour expliquer, et ça peut parler peut-être rapidement, en dehors des valeurs, et j'y reviendrai, des enjeux de l'économie, du fait d'entreprendre autrement, pour comprendre qui sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a une entrée par famille et vous avez bien évidemment les associations qui sont près de, alors entre 80 et 85% des acteurs de l'économie sociale et solidaire, hein, bien évidemment, puisqu'elles sont, tout à fait très nombreuses sur chacun des territoires. Vous avez la famille, je l'ai évoqué tout à l'heure, coopérative, hein, les SCOP, les SIC, permettent de donner l'égalité à une voix à chacun. Et donc, on dit, pour aller vite, aujourd'hui, une voix, un homme, égale un homme ou une femme, qui donne le pouvoir aux salariés, et notamment, on en a entendu parler, par exemple, avec le cas de la reprise par les salariés de l'entreprise du thé, Scopti, aujourd'hui, hein, lorsque Éléphant a décidé d'arrêter la production, les salariés ont entrepris une démarche pour reprendre leur outil de production. La troisième famille, et bien entendu historique, c'est l'ensemble des mutuelles. Denis Philippe, le président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui de notre région, est un des représentants, hein, des forces mutualistes. Et vous avez également la quatrième famille qui sont les fondations. Et enfin, depuis la loi de 2014 qui a donné un bel élan et un appui important, une reconnaissance légale aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, ça a été l'année aussi d'une cinquième nouvelle famille qui représente l'ensemble des entreprises qui ont finalement entreprennent avec les mêmes fondamentaux que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, alors avec des égalités établies dans les statuts entre les salariés ou les participants, des possibilités de participation et de gouvernance participative, etc. Donc, ce sont les entreprises ESUS. Voilà, donc c'est entreprises solidaires d'utilité sociale.
Bah, merci pour ces explications. On va écouter tout de suite Teresa Rhodes, Bombs on You and I, qui est son nouveau single et qui parle de la liberté et notamment par rapport à la guerre en Ukraine.
Question their lies, you'll be detained. Speak your mind, you will vanish. Tyrants see freedom as the enemy. We believed freedom was ours to keep till King.
Je vous propose maintenant de parler des stratégies et des leviers d'action des emplois de l'ESS en parcourant donc la journée autour de l'emploi associatif que vous avez organisée à Marseille le 24 mai 2023. Et je vais laisser le soin à Yannick Gallien, le président PACA du mouvement associatif, d'ouvrir cette journée dans un premier extrait sonore du 24 mai 2023, tout de suite sur Fréquence Mistral.
Mettre en place au sein du mouvement associatif et de l'ensemble de ses acteurs et actrices ici présentes dans cette salle, et que je remercie, une journée consacrée à l'emploi. À l'emploi associatif, mais aussi à l'emploi d'économie sociale et solidaire. Parce que vous le savez, nous sommes tous traversés par des situations compliquées. Une journée un peu de constat, mais aussi une journée de solutions pour lesquelles certaines d'entre vous seront là cet après-midi pour nous éclairer. Une journée aussi qui permet de faire l'analyse de réflexion et de construction en commun. Et puis aussi une journée qui, par rapport au cœur du sujet, doit pouvoir nous permettre de réfléchir sur tous les aspects à la fois de conditions de travail, de rapport à l'emploi, de démarches à caractère sociétal qui aujourd'hui viennent percuter cette logique dite de l'emploi, du recrutement, des fameux métiers en tension dont nous parlons beaucoup, des réflexions et aussi des questions. Le salariat est-il menacé aujourd'hui? Le salariat est-il menacé par l'auto-entrepreneuriat, par la logique des start-up, par l'ubérisation du travail, par toute la notion de création d'entreprise que nous entendons ici et là? Et à force de laisser penser aux gens qu'ils doivent tous pouvoir créer leur entreprise, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on ne les éloigne pas du salariat? Alors que peut-être aussi on pourrait déplacer le curseur sur l'entrepreneuriat collectif, donc à ce moment-là entreprendre au sein des structures de l'économie sociale et solidaire. C'est le thème cher à Denis Philippe, puisqu'il dit toujours on ne parle pas de la CRES comme chambre régionale de SS, mais chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes tous entrepreneurs à des nuances différentes, avec des objectifs différents. La notion d'entreprendre au sens large du terme, ça peut être aussi déconnecté de l'économique parce que c'est lié aussi à la mise en place d'actions au service d'objectifs. Et puis la recherche de sens. Monsieur Berlemont nous en a parlé tout à l'heure, il en reparlera peut-être, je ne veux pas lui couper l'herbe sous les pieds. Nous sommes normalement dépositaires au sein de nos organismes, de nos structures, des entreprises et associations que vous gérez ici les uns et les autres, chers collègues. Nous sommes dépositaires de ce qu'on pourrait appeler des métiers qui ont du sens. Sauf que, est-ce que ce sens est-il perçu par ceux qui sont à la recherche d'un emploi? Pas sûr. On a certainement du travail à faire, et là, ça se fait aussi en compagnie de la DRAGES, qui nous aide et qui nous permet d'assurer ce qu'on va appeler la visibilité de nos emplois. Et donc, le Covid a certainement rebattu les cartes. Le Covid a laissé penser à un certain nombre de gens qu'on pouvait aussi travailler de chez soi, ce qui est une réalité. Le Covid a pu laisser penser à un certain nombre de gens qui pouvaient travailler tout seul dans son coin. Le Covid a pu laisser penser à des gens, et n'y voyez aucun propos malveillant de ma part, qu'on pouvait être rémunéré sans travailler, mais parce que c'était la logique même à un moment donné de l'aide de l'État, le fameux quoi qu'il en coûte dont on a parlé, qu'on peut critiquer, mais qui a quand même permis, si on le regarde de façon extrêmement objective, à pratiquement la totalité des entreprises d'être toujours en vie. Je le dis toujours par rapport à mon autre engagement au sein de l'UNAT, aucune de nos entreprises n'a disparu. Nous avons pu maintenir nos activités parce que le quoi qu'il en coûte a facilité cette pérennisation et a surtout permis aux salariés que vous êtes, que certains sont, de continuer à pouvoir toucher, peut-être pas 100%, mais une somme non négligeable du salaire qui était le leur. Donc cette rencontre aujourd'hui, elle a pour objectif de se poser un certain nombre de questions, de se dire que nous sommes à peu près tous touchés par les mêmes situations, et puis qu'il y a aussi ceux, celles qui sont là pour apporter des solutions. Vous êtes présents dans cette salle, nous en reparlons cet après-midi, et nous ferons ainsi croiser les attentes et les besoins avec les solutions. Je vous remercie.
Sandra Castebrunet, pouvez-vous nous présenter les différents temps forts de cette journée et les structures qui avaient été invitées à parler le 24 mai?
Oui, avec plaisir. Alors, nous avons d'abord eu un temps en amont à la Maison régionale de l'économie sociale et solidaire, ESC Sud, en présence de la secrétaire d'État dédiée en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, Marlène Schiappa, et deux membres de son cabinet, le conseiller spécial Alexandre Dimeguion et Paul Mathieu Keitoukoli, pardon, en charge de l'ESS. Nous avons eu ce temps pour présenter cette initiative des acteurs cofondateurs de la maison de l'ESS, à savoir le mouvement associatif aux côtés de la chambre régionale et des entreprises de l'économie sociale et solidaire et de l'UDES, qui représente l'union des employeurs de l'économie sociale. pour démontrer aussi la force, par l'exemple, hein, des têtes de réseau, de têtes de réseau, qui aussi se sont rassemblées pour œuvrer ensemble aux enjeux que traverse l'économie sociale et solidaire. Donc ce temps-là a permis également aux fédérations membres du mouvement associatif d'avoir un temps d'échange particulier avec la ministre et les membres de son cabinet pour donner à voir la capacité d'innovation des fédérations et de renforcer notre nécessaire démonstration de l'utilité des têtes de réseau, à savoir des coopérations. Voilà, notre enjeu est toujours, pour nous, fédérations, de démontrer pourquoi il est utile de se fédérer pour les associations, pour bénéficier de services, mais aussi pour pouvoir œuvrer ensemble. Et donc, pourquoi les fédérations ont un impact, comme on dit, fort sur le territoire et surtout un soutien pour les pouvoirs publics, puisqu'ils ont là l'occasion d'avoir des relais importants qui va pouvoir renforcer les décisions ou avoir aussi des solutions qui émanent des fédérations qui sont expertes dans leur secteur. Donc ce temps-là, à la maison de régionale, était vraiment assez important et nous avons été ravis de pouvoir avoir ce temps de visibilité de nos membres et des secteurs représentatifs du monde associatif. Ensuite, nous sommes allés dans les locaux, c'était une journée un peu marathon, dans les locaux de la Banque Populaire Méditerranée qui nous ont superbement accueillis sur l'avenue du Prado à Marseille. Et toujours en présence des membres du cabinet qui sont restés pour écouter aussi l'ouverture de cet événement régional dédié à l'emploi associatif. Et nous avons eu un temps fort politique d'ouverture dans un premier temps, le matin, avant la pause déjeunatoire. Et c'est suivi ensuite d'abord une ouverture de l'après-midi des acteurs de la maison de l'ESS pour aborder les principaux enjeux et donner à voir des solutions que proposaient la CRES et l'UDES et le mouvement associatif. Et ensuite, deux tables rondes. La première qui donnait la parole à des fédérations représentatives du mouvement associatif pour témoigner des difficultés de recrutement et de leurs incidences sur le tissu associatif. La deuxième table ronde se voulait être en écho de la première et de commencer à ouvrir vers des perspectives et de solutions en donnant la parole aux représentants des différentes institutions telles que la direction régionale académique de jeunesse et sport, la DRAGES, la DRET qui est la direction régionale de l'emploi. Pour aller vite dans les logos et les situer tout de même. Bien évidemment, la région sud, partenaire fort et très engagé sur ces sujets aux côtés de la DRAGES et la DRET. Également, la direction régionale de Pôle emploi a pu présenter aussi les solutions mises en place pour résoudre en tout cas accompagner les associations employeuses. Nous avons également invité l'OPCO, donc l'opérateur de compétences Uniformation de la l'OPCO de la cohésion sociale, qui représente quand même majoritairement, on va dire, les quelques champs d'activité des associations. Et une initiative particulière a été présentée par le CFA Futuro Sud, avec qui le mouvement associatif travaille régulièrement. Et enfin, et bien évidemment, a été associée à cela, l'association régionale des missions locales, pour également pouvoir présenter un partenariat particulier qui est en train de se construire avec le mouvement associatif. Et cette journée a été clôturée, puisque nous nous situons sur la ville de Marseille, qui est tout de même, même si nous œuvrons sur l'ensemble du territoire régional à travers nos fédérations et à travers nos actions, nous sommes aussi, bien évidemment, interpellés par la métropole marseillaise qui rassemble de très nombreuses associations. Et donc, M. Ahmed Dedadi, l'élu en charge de la vie associative à la ville de Marseille, a pu, aux côtés du président Yannick Gallien, avoir le propos conclusif de cette journée. Et Yannick Gallien a pu poursuivre pour donner les perspectives, parce que le but de cette journée était vraiment qu'une rampe de lancement pour d'autres actions à renforcer entre les fédérations et les partenaires publics et autres.
Merci pour cette présentation. Je vous propose qu'on aille vers les problématiques qui ont été exposées pendant cette journée, et donc d'écouter un extrait de Majid Bouraba, le directeur adjoint de la DRAGES, donc la délégation régionale académique de la jeunesse à l'engagement et au sport.
Sur la DRAGES, plusieurs enjeux. Un enjeu d'attractivité, un enjeu de consolidation, un enjeu de professionnalisation et un enjeu d'accompagnement. Sur l'emploi, les chiffres seront donnés tout à l'heure. On est à 10% à peu près, ce qui a été dit tout à l'heure. 10% des emplois privés s'inscrivent dans le monde associatif et dans l'économie sociale et solidaire. Derrière, c'est la question du sens. Bon, pour être très clair, concernant les enjeux d'attractivité, aujourd'hui, on est aussi sur des générations où la diplomatie, la capacité à faire comprendre les choses est peut-être un peu plus importante. Et donc la question notamment de l'immersion constitue pour nous un premier enjeu. On a commencé à travailler avec le mouvement associatif et l'UNAT d'ailleurs sur le concept d'immersion dans un certain nombre de métiers. Et pour ce qui nous concerne à jeunesse et sport, plutôt sur les métiers d'animation, là aussi vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un certain nombre de difficultés, notamment cet été, avec des colonies qui ont été annulées, des centres de vacances qui n'ont pas pu tourner, faute d'employés pour les faire tourner. Donc nous, un premier enjeu, c'est comment on attire les compétences dans un certain nombre de domaines. Je parlerai vraiment plus du domaine jeunesse et sport. Comment on les attire ? Donc attiré par des nouveaux arguments, des nouveaux concepts. Derrière, c'est la question de l'accompagnement dans l'emploi. Un certain nombre de dispositifs qu'on a à la DRAGES aujourd'hui permettent cet accompagnement. Alors, c'est un accompagnement ponctuel, c'est important de le rappeler. On n'est pas sur des accompagnements durables. Quand on est sur une aide à l'emploi, souvent, elle est datée. Souvent, c'est des conventions de 3 ans, parfois un peu plus. Mais l'enjeu pour nous, c'est d'accompagner, pendant ce laps de temps, d'accompagner sur un modèle économique qui permette la durabilité de cet emploi. Derrière, la question de la professionnalisation. De plus en plus, entre les emplois, les salariés, on a quand même aussi une nuance à mettre en place, c'est aussi l'évolution des métiers. On a parlé ce matin de l'impact du numérique, mais également de la transition énergétique et un ensemble d'éléments qui aujourd'hui ont une véritable conséquence sur la manière de travailler. Et donc ça participe à la question de la professionnalisation. Et l'enjeu est toujours d'adapter la formation aux besoins. Ça peut prendre du temps. L'idée, c'est d'aller un peu plus vite dans notre capacité à regarder ce qui se passe, notamment avec la région, puisque ça, c'est un enjeu qu'on partage avec la région et les autres services de l'État, pour adapter nos formations, avec les difficultés que vous pouvez comprendre et entendre. Mais c'est aussi un enjeu. Et derrière, c'est un enjeu de modèle. C'est le modèle économique. Pour beaucoup, on a pu en discuter, notamment sur les travaux qui ont été menés par le fonds JEP. Aujourd'hui, quel modèle économique de pérennisation de l'emploi dans le monde associatif et l'ESS, et notamment la notion de valorisation des coûts cachés, et en tout cas des coûts économisés. Et donc ça, c'est un enjeu important en termes de valorisation. C'est finalement un emploi associatif, c'est plus qu'un emploi associatif. Qu'est-ce qui permet de valoriser en termes de relations humaines, en termes d'écosystème, en termes de capacité à faire et à faire faire, puisque c'est important de le dire aussi, un réseau comme Jeunesse et Sport, sans les associations, on ne peut pas faire grand-chose. On va être clair là-dessus, c'est important de le rappeler aussi. Donc voilà rapidement dressé un certain nombre d'enjeux. On pourra peut-être en discuter cet après-midi.
Voilà, un extrait. Donc Sandra Castebrunet, pouvez-vous donc nous expliquer les grands enjeux autour de l'emploi auxquels vous êtes confrontés actuellement dans le secteur associatif et de l'économie sociale et solidaire par rapport aux enjeux d'attractivité, d'accompagnement, de valorisation des coûts? Il a un peu parlé de tout ça, présenté tout ça.
Oui, tout à fait. Voilà, c'est Monsieur Bourabba, effectivement, a bien relevé l'ensemble des enjeux qui nous traversent. Donc, comme l'ensemble des secteurs, finalement, même hors ESS, nous sommes également dans une période problématique de tension de l'emploi, et donc nous rencontrons, les associations rencontrent des difficultés liées au recrutement. La particularité ensuite pour les associations, c'est que dans cette période entre guillemets de plein emploi, eh bien nous sommes effectivement entre guillemets aussi victimes un peu de notre invisibilité. Alors pas tout le temps, mais néanmoins nous avons un enjeu tous de rendre visible l'emploi associatif, d'en parler au plus tôt, par exemple quand on a un parcours scolaire de formation, quand on est très jeune, on entend très rarement finalement parler de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a des fédérations hein, comme l'ESPER qui y travaillent et d'autres, mais nous avons tous cet enjeu, encore plus aujourd'hui dans cette course aux candidats. Et puis cet enjeu est d'autant plus problématique pour les associations, puisque œuvrant pour l'intérêt général, ça met en péril, en cascade même, des situations qui touchent finalement les citoyens. Et on ne s'en rend pas compte, mais quand on a de moins en moins de propositions de crèche ou de moins en moins de propositions de garde d'enfants, de soutien scolaire, d'activités pendant les vacances, quand on a des situations difficiles pour avoir des relais quand on est victime ou soi-même ou des membres de sa famille de handicap. Voilà, si les associations ne peuvent pas réussir à atteindre leurs objectifs par manque tout simplement de personnel, hein, ça a des conséquences au-delà du simple fait que l'association ne fonctionne pas. L'association ne fonctionne pas uniquement pour elle-même, elle fonctionne surtout et uniquement pour le projet associatif et le projet qu'elle porte, quel que soit son secteur d'activité. Donc effectivement, voilà, c'est ça a des conséquences parfois même dramatiques dans des secteurs d'activité comme par exemple le sanitaire et social, qui aujourd'hui, l'UDES l'a démontré dans un premier temps de cette journée-là, a une tension pour recruter notamment le métier d'aide à domicile, pour faire un focus sur ce métier-là, qui a des conséquences puisque d'ici à 2030, hein, c'est les constats qu'ils ont établis, il y aura un manque de plus de 20 000 postes, agents de personnes en tant qu'aide à domicile. Donc on imagine les conséquences que ça aura pour s'occuper d'une... s'occuper correctement d'une population vieillissante, comme on le sait, puisque nous sommes aussi, comme toutes les structures, mais particulièrement le monde associatif, touchés par l'enjeu aussi du renouvellement générationnel. Donc nous avons besoin de renouveler nos gouvernances, mais également les postes. Aujourd'hui, vous avez ça pose un problème de gestion prévisionnelle des compétences, hein, puisque vous avez aujourd'hui, par rapport à tout l'ensemble du secteur privé, 21% des salariés du monde associatif qui ont plus de 55 ans. Dans le secteur privé, c'est à peine, c'est élevé aussi, mais c'est 17%. Donc on ne va pas faire la course aux difficultés, mais on voit que les enjeux portés par les associations ont un impact conséquent si nous n'arrivons pas à remplacer le métier. Là, j'ai cité celui d'aide à domicile, mais pas que, en fait. Hein, vous avez des secteurs qui sont touchés dans l'animation, par exemple, trouver des animateurs est très, très, très difficile. Donc, ça touche une problématique importante qui est d'attirer les jeunes qui souhaiteraient travailler dans ces associations qui sont porteuses de sens. Donc, nous avons besoin de le réaffirmer, puisqu'aujourd'hui, les autres entreprises valorisent leur politique de RSE, de responsabilité sociale des entreprises. Nous ne le faisons pas assez, donc nous avons un enjeu d'attractivité très fort, puisque nous savons aussi que les jeunes sont en recherche de sens. Et pour les fidéliser, nous avons besoin de renforcer aussi la possibilité de construire une carrière dans le tissu associatif. Donc tout ça, comme le soulignait très bien M. Bourraba, hein, et nos fédérations l'ont renforcé, eh bien, nous avons la nécessité également de réfléchir à nos modèles économiques, à réfléchir à comment renforcer voilà, l'attractivité, la valorisation de l'emploi.
Et par rapport à, justement à ces emplois, quelles sont les parts des CDD, CDI dans le secteur associatif? Alors, ça donne quelques imaginaires,
oui,
comme ça.
Oui, vous avez... il y a en région, hein, 70% des emplois sont en CDI et 21% en CDD. Alors... Cette moyenne ne doit pas cacher, c'est des moyennes, hein, mais elle ne doit pas cacher les différences significatives en fonction des secteurs d'activité, puisque dans la santé, on va avoir plutôt un pourcentage de 89% d'emplois en CDD, ou dans le sport aussi, 63%. Ce sont des secteurs qui sont très fortement pourvoyeurs, notamment le sanitaire et social. D'emploi. C'est le plus gros employeur du monde associatif, hein, et 89% des postes sont en CDD. Donc il y a un enjeu de pérennisation des postes fort. Voilà. Donc, si vous voulez, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, j'avais voilà les chiffres, hein, ça représente, c'est le secteur associatif, c'est quasiment 10% des salariés du secteur privé. C'est-à-dire que près d'un salarié sur 10 travaille, un salarié sur 10 du secteur privé travaille dans une association. C'est important de le dire, et ça a été le message que nous avons souhaité faire passer avec Yannick Gallien, le président du mouvement associatif, auprès de la secrétaire d'État, parce que on le dit pas assez. C'est un poids aussi considérable, plus important que le secteur de la construction, qui aujourd'hui représente 8,1% des emplois en région, hein, je parle, ces chiffres-là sont en région. Le transport dont on parle aujourd'hui représente 7,4% de l'emploi. Ou alors le commerce de détail, hein, dans notre région, c'est l'équivalent du poids du secteur de l'emploi associatif avec 9,3%. On est exactement, pour être précise, à 9,1% de salariés.
Merci, oui, déjà d'avoir donné un imaginaire. Et donc là, les pourcentages par secteur d'activité, ça montre le poids de l'associatif. Et aussi d'avoir nuancé sur les chiffres de CDI et que ça,
oui,
dépend des secteurs. Parce
exactement,
que,
c'est une moyenne.
Cette pérennisation n'est, par exemple, en radio, en cours de travail, on pourrait dire. On va écouter un extrait de la table ronde numéro 1, témoignage des difficultés de recrutement. Et c'est un extrait de Rémi Béguin, qui est représentant de la Fédération régionale de la Maison de la Jeunesse et de la Culture, et la COFAC, et qui, lui, travaille une MJC de Aix-en-Provence.
Sur le domaine que je maîtrise un peu mieux que, de manière générale, le monde de la culture, celui des MJC, des Maisons des Jeunes et de la Culture, il y a effectivement une vraie difficulté aujourd'hui en termes d'emploi à avoir les moyens de nos ambitions. C'est-à-dire que... Globalement, nous, sur la Fédération régionale Méditerranée, on a les deux tiers de nos membres qui sont dans des zones rurales, parfois très, très isolées, un tiers en QPV, alors ça peut se recroiser, hein, le deux tiers zone rurale, le un tiers QPV. L'essentiel des ressources humaines, c'est des ressources humaines en contact direct avec, avec les adhérents adhérentes, puisque c'est 70% de la masse salariale qui sont des animateurs techniciens, avec le statut d'animateur technicien qu'on connaît quand on est dans notre convention collective. En gros, c'est un peu de l'enseignement avec des dérogations au droit du travail. Donc, on peut avoir des temps de travail très partiels sur l'animation des animateurs techniciens. Et donc, forcément, du pluri-employeur pour ces personnes-là. Vous pouvez imaginer, quand on est en ville, comme c'est le cas pour moi à Aix-en-Provence, j'ai des salariés qui parviennent à avoir des pluri-employeurs sur le même territoire, sans trop de difficultés. Mais quand on est à Laragne, en montagne, c'est beaucoup plus complexe. Donc, une précarisation importante de ces personnes-là. Sur les postes administratifs, donc c'est ce qu'on appelle postes administratifs, nous, c'est 11% à peu près des postes dans notre réseau. On voit de plus en plus une complexification des tâches avec des normes administratives qui sont de plus en plus importantes et difficiles à comprendre et à saisir pleinement, surtout pour des salariés qui sont à temps partiel. Donc ces temps partiels sont systématiques et la rémunération et le volume horaire en fait est conditionné directement au volume des subventions. C'est des postes qui génèrent pas d'argent direct, donc qui ne reposent que sur les subventions qu'on peut recevoir. Et je pense qu'on est un peu comme tout le monde dans cette salle. Les subventions stagnent quand elles ne baissent pas. L'inflation, elle, augmente. Donc les frais fixes de gestion des bâtiments augmentent. Mais par contre, on n'a pas plus d'argent pour les payer. Un petit exemple, la MJC de Venelle, pas très loin d'ici, là, dans le pays d'Aix. Ils sont en train de renouveler leur poste d'accueil pour la structure. C'est 15 heures par semaine. Donc c'est très complexe d'embaucher quelqu'un qui va être le premier visage, voire le seul, que vont voir les adhérents pour embaucher quelqu'un qui va être 15 heures par semaine à qui on demande d'être à la fois en charge de l'accueil téléphonique, en charge d'un peu d'administratif, des adhésions et sur des niveaux de rémunération faibles parce que les structures n'ont pas les moyens. Sur tout ce qui va être animation de secteur, ça rejoint ce que tu disais. C'est des métiers où de plus en plus, comme les financements sont soumis à des appels à projets, on demande finalement aux personnes de trouver elles-mêmes le financement pour leur poste. Et donc déjà, c'est pas forcément très, très motivant. Et en plus, ça prend un temps de travail énorme pour ces animateurs de secteur. Je pense aux animateurs famille, aux animateurs jeunesse, ainsi de suite. Il y a peu de candidats, comme ça vient d'être dit. Et à tel point, voilà, par exemple, la MJC de Laragne, dont je parlais rapidement tout à l'heure, elle a été contrainte pendant plusieurs mois de fermer son secteur jeune par manque d'animateurs. Donc c'est un service, une demande du territoire plus exactement qui n'est pas satisfaite. Ça met en porte-à-faux vis-à-vis des financeurs publics et sans avoir de solution claire, puisque là, c'est vraiment le manque de candidats. La question des carrières aussi qui a été évoquée est très importante. Quand on prend des animateurs techniciens spécialistes de leur secteur, je vois dans mon association à Aix, on a un volet un peu école de musique. Donc c'est des formations très pointues. Je vais avoir des personnes qui ont un diplôme d'État en violoncelle, par exemple. Au bout de 20 ans de carrière à être prof de violoncelle chez nous, quelle évolution on peut proposer ? C'est encore complexe. Ça repose sur ce qu'on peut travailler ensemble au niveau du mouvement associatif, je pense, avec une formation aussi, trouver des manières de faire évoluer les compétences individuelles de ces personnes qui sont, encore une fois, sur des temps partiels, sur du pluri-employeur. Donc, caler des formations un peu longues et diplômantes, c'est pas forcément facile. Voilà.
Fréquence Mistral, c'est votre radio régionale des Alpes du Sud.
Sandra Castebrunet, maintenant, dernière partie, est-ce que vous pouvez nous évoquer les différentes solutions qui ont été parlées pendant cette journée ?
Je commencerai bien évidemment par les solutions d'ores et déjà présentées par le mouvement associatif, qui répondent en partie donc à ce qu'a souligné l'ensemble des interlocuteurs que nous venons d'entendre, le manque de candidats, la nécessité de renforcer les pistes de recrutement, la nécessité de fidéliser et donc de construire des parcours de carrière et de renforcer le niveau de salaire, même si nous, au sein du mouvement associatif, on a un rôle qui va ne consister que à porter cette parole-là. et envisager des solutions aux côtés de nos fédérations. Nous avons, pour répondre en partie aux besoins d'attractivité, aux besoins de renforcement de la visibilité des emplois associatifs, nous avons créé la première plateforme régionale en ligne, une plateforme dédiée à l'emploi associatif, qui est sur notre site internet, hein, et qui permet de déposer son offre d'emploi très rapidement, sans inscription, sans des questions trop longues, pour que l'ensemble des petites associations employeuses puissent se saisir très rapidement. Nous le validons en équipe ensuite et le diffusons sur l'ensemble de nos supports numériques et sur nos réseaux sociaux pour rendre visible cette offre. Nous avons à renforcer nous-mêmes la visibilité, la connaissance de ce portail en faisant connaître cet outil. Donc c'est une plateforme supplémentaire, hein, bien entendu. L'UDES a également une plateforme. Sur le site de la CRES, de la Chambre régionale, nous pouvons retrouver aussi également l'ensemble des offres d'emploi. Néanmoins, ça a le mérite de renforcer, d'apporter sa pierre à l'édifice pour renforcer également la mise en lumière particulièrement de l'emploi associatif. Ensuite, nous avons, soutenu par la DREETS, créé un groupement d'employeurs. C'était une ambition de quelques fédérations membres du mouvement associatif pendant assez longtemps, hein, pour répondre à la mutualisation de l'emploi, pour répondre aux besoins partiels des associations qui n'ont pas ou les moyens ou par choix, selon les projets, qui vont recruter à temps partiel ou très petit temps partiel. Nous avons réuni les fédérations et travaillé avec elles pour créer ce groupement d'employeurs qui s'appelle aujourd'hui Jamasso, qui existe. Et qui existe depuis seulement le mois d'avril, hein, mais pour apporter cette solution et prendre le risque d'y aller et de à la fois de répondre à ce besoin pour les associations, même non employeuses, hein, qui pourraient aller vers leur premier emploi également, et les associations employeuses qui pourraient trouver là peut-être un vivier de candidats renforcés ou des solutions d'embauche avec une autre association sur des fonctions support. Parfois, il est compliqué de recruter un assistant administratif, un assistant comptable, un comptable, un animateur, un chargé de communication. C'est compliqué de recruter ces postes-là à temps complet. Et donc, l'idée de mutualiser, d'avoir un outil facilitant, porté par le mouvement associatif, mais également par ses membres, les fédérations qui ont adhéré, permet d'accélérer aujourd'hui cette solution et de permettre en tout cas de sortir de la précarité pour certains salariés et enfin de pouvoir prétendre à progressivement un parcours plus sécurisé. Nous travaillons sur l'ensemble de la région parce que bien évidemment l'enjeu est encore plus fort sur les zones rurales et donc nous œuvrons parce que l'idée de représenter toutes les associations et de les rassembler, de faire preuve d'ouverture, eh bien, se traduit là aujourd'hui très concrètement par la capacité de tous à pouvoir se réunir et mutualiser de l'emploi avec Jamasso. Nous avons également, comme nous participons à de nombreux forums emploi pour aller valoriser l'emploi associatif, comme je le disais tout à l'heure, on a nécessité de faire connaître le monde associatif, hein, d'enlever aussi la vieille image des associations et d'aller renforcer les possibilités de carrière et d'emploi qui sont très diverses et très largement aussi aussi valorisante que dans le secteur privé lucratif. Donc cette participation à de nombreux forums nous a amené à recueillir de nombreux CV également. Et donc nous avons ouvert une CV Tech à disposition de nos fédérations pour qu'elles puissent relayer dans leur réseau les CV que nous recueillons ou que nous recevons d'ailleurs sur notre boîte mail de manière assez régulière. Donc voilà, ça marche. Et j'ai oublié de préciser que notre plateforme dédiée à l'emploi associatif rencontre un succès intéressant puisque nous avons tout de même plus de, enfin entre 600 et 800 visiteurs uniques, comme on dit, en moyenne par mois, ce qui est voilà, par rapport aux moyens de déploiement que nous avons, qui ne sont pas conséquents, ça représente quand même un certain intérêt pour les gens de retrouver là des emplois. Voilà, pour quelques mesures, il y en a d'autres, mais que nous déployons au sein du mouvement associatif. Et ensuite, nous avons permis à l'ensemble des acteurs cités tout à l'heure, pour ne pas être trop longue, mais de présenter les solutions innovantes, on peut le dire, par aussi Pôle emploi, les missions locales, les CFA, les OPCO, pour renforcer l'attractivité, donner des solutions, créer des recrutements tout à fait originaux et illustrer leur initiative qui rencontre un vif succès pour attirer des nouvelles personnes qui pourraient s'investir dans le monde associatif.
Oui, notamment, il parlait pendant la journée de valoriser tout ce qui était autour sur l'emploi et pas seulement le salaire, mais qui puisse représenter, par exemple, un temps partiel, ça peut être un avantage ou en fonction des personnes, ou un logement autour, ou les horaires flexibles.
Tout à fait.
Donc ça a beaucoup parlé de ça.
Oui, tout à fait. Voilà, c'est effectivement, vous avez le secteur du tourisme social et familial permet quand même, par rapport aux autres acteurs du tourisme lucratif, d'offrir quasiment à tous ses salariés la possibilité d'un hébergement sur place bien entendu les conditions à la fois de management, on le dit pas assez, sont beaucoup plus souples, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus participatives depuis fort longtemps finalement au sein des associations. C'est le cas également dans les centres sociaux qui misent véritablement tout sur leur masse salariale, c'est-à-dire que c'est les salariés des centres sociaux qui portent le projet du centre social et qui fait vivre le territoire, qui fait vivre le lien avec l'habitant et qui, on le dit parfois, tient des quartiers de manière assez solide parce que des gens s'investissent et y trouvent un intérêt fort. Et donc cet intérêt, il est là parce qu'il y a effectivement de la souplesse, majoritairement, bien entendu, ce n'est pas non plus qu'idyllique, hein, le monde associatif, mais majoritairement, parlons aujourd'hui de ce qui va bien et de ce qui est proposé, la possibilité aux salariés d'être écoutés, d'être entendus, de participer au projet de la structure pour laquelle on travaille, d'être entendu quand on fait des propositions, quand on a une idée d'amélioration d'un service, quand on a la volonté de s'investir dans le projet, on a la possibilité de grandir et d'évoluer. C'est souvent plus facile de gravir les échelons dans une association qu'ailleurs, même si voilà, y a des difficultés aussi. Mais voilà, c'est quand même des éléments que nous avons aujourd'hui l'enjeu de valoriser.
Eh ben, merci pour cet aperçu, Sandra Castebrunet. Et Nous aurions pu parler, mais nous n'avons pas eu le temps. Et peut-être pour une autre émission, de tout l'enjeu aussi du bénévolat.
Tout à fait.
Dans le secteur associatif, qui est vraiment particulier. C'est-à-dire que dans chaque association se côtoient des bénévoles et des salariés et un conseil d'administration. Mais ce qui entraîne des rapports aussi spécifiques et particuliers à ce secteur et qui auraient été passionnants de discuter. Mais on va plutôt conclure par votre nouvelle campagne de presse.
Alors, juste un mot, effectivement, hein, nous avons l'ambition de tout à la fois d'organiser un événement qui valorisera justement la vie associative dans son ensemble et permettra d'aborder la question de l'engagement et du bénévolat. Donc on aura d'autres occasions d'en parler puisque bien évidemment là le propos est concentré sur l'emploi associatif parce qu'il y a urgence, mais il y a aussi urgence pour ce qui concerne la mobilisation des bénévoles. Donc effectivement, depuis la rencontre avec la secrétaire d'État, le président du mouvement associatif régional, Yannick Gaillen, a pu exprimer et la solliciter sur une campagne nationale, pourquoi pas. Hein, c'est, voilà, on peut espérer que notre propos a été entendu. Nous pensons qu'il a été entendu en grande partie. Pour valoriser et être à nos côtés pour valoriser l'emploi associatif. Il existe une campagne aujourd'hui de valorisation des emplois du tourisme et en tant que président de l'UNAT, il a suggéré l'idée d'organiser une semaine de valorisation de l'emploi associatif, de la richesse portée par l'ensemble du tissu associatif. Donc nous avons besoin de soutien et son interpellation va dans ce sens puisque nous œuvrons, nous et avec nos fédérations pour apporter nos solutions, mais nous avons besoin d'écho quand on reprend encore une fois le poids de l'emploi associatif dans une région, le poids économique, le poids sociétal, le poids environnemental de l'emploi associatif, quand on sait que l'emploi est porteur de sens dans les associations et que c'est l'emploi associatif qui permet de développer un modèle de société différent quand on est traversé par l'ensemble de ces enjeux de transition écologique, de transition diverses et variées assez urgentes aujourd'hui, eh bien le modèle associatif est un modèle renouvelé sans cesse et nous avons besoin de soutien pour renforcer cette image parfois qui a été terni, et aussi parce que nous n'avons pas pris suffisamment, hein, peut-être les moyens de valoriser l'emploi associatif. Donc nous sommes tous aujourd'hui vent debout pour valoriser, nous sommes soutenus hein, par l'ensemble des collectivités hein, et des services de l'État. Mais cette campagne nationale est demandée par le président qui a été relayée dans le journal La Marseillaise hein, d'une semaine de valorisation de l'emploi associatif nous semble être plus que nécessaire, plus qu'utile et remportera certainement un écho parce que la société civile a besoin de connaître l'ensemble des aspects émancipateurs de l'emploi associatif.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu dans nos studios. J'espère que justement on a été l'écho
merci beaucoup,
de votre voix et que et qu'on pourra continuer. Merci également à Isabelle Malud d'avoir été là, même si on ne vous a pas entendu, vous êtes derrière et sans vous, cette rencontre ne se serait pas faite. Et merci bien sûr Sandra Castebrunet.
Merci beaucoup.